L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Cimara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
que le village sera à eux. Ils auront une maison gratuitement avec un jardin. C'est comme s'ils construisaient leur maison. Certains ne sont pas convaincus et s'en vont. Ils se disent qu'ils vont, qu'ils ont choisi, qu'ils croient avoir choisi la facilité, mais c'est le contraire. Ils vont voir ce que c'est que le travail avec un patron et à quel salaire. Ici, ils ont à manger, un gîte, couvert, des heures de travail correctes. Ceux qui sont partis ont vite désenchanté. Et dès le début, ils ont compris qu'on les prenait, c'est-à-dire pour du bétail. Mais une fois qu'ils sont pris, ils ne peuvent pas s'en aller, car il y a des gardes armés et qui tuent. Il se dit que petit à petit les gens vont comprendre ce que c'est que travailler là-bas. Il dit aussi à Pierre de faire très attention, parce qu'ils prennent aussi des jeunes filles et des garçons pour les mettre dans des endroits qui servent de bordel. Gilles ne sait pas vraiment que c'est pour ça, mais il y pense. Pierre fait très attention pour ne pas être pris. Il veut rester près de Gilles. Jean-François augmente les impôts à cause de ces villes. Les gens protestent. Il y a déjà la misère, la maladie, la chaleur. Il faut encore payer plus d'impôts. Ce n'est pas juste. Il y a des manifestations, des émeutes. Jean-François tient. Il a la police, l'armée avec lui. Il impose ses impôts. Et pour les riches, il fait un impôt sur la fortune. Ils sont obligés de se soumettre. Parce qu'ils ont peur, c'est de ne pas pouvoir aller dans la nouvelle ville. Les compagnons de Jéhu se rencontrent et se demandent ce qu'il faut faire. Faut-il agir de suite avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il soit enfermé dans sa forteresse? Mais si on agit de suite, on risque d'avoir les autres qui veulent entrer dans cette cité et qui seront prêts à tout pour protéger leur roi et le défendre. Ils risquent, c'est de faire des émeutes, d'émeuter le pays. Mais si on remplace le roi par l'autre personne, personne ne saura. Oui, mais si ça s'ébruite, c'est l'émeute. Les bourgeois réveilleront le peuple pour qu'ils se battent à leur place, comme ils l'ont fait si souvent. Le peuple se fera tuer. Le peuple qui a déjà assez de misère comme ça. Non, ce qu'il faut, c'est remplacer le roi lorsqu'il sera dans sa cité. Et même, tout d'abord, il faut prendre les plans de la cité. Il doit bien y avoir des passages secrets sur son plan. Oui, il faut commencer par les plans. Il ne faudra pas les prendre, mais il faut tout copier. Il faut voir les architectes et tâcher de voir où sont les plans. Oui. Il trouve un architecte qui se nomme Genevois. On le surveille. Il habite une magnifique maison à Versailles, femme et enfant. Au cours d'une soirée, on se fait inviter en prenant la place d'un invité, son identité, déguisé et endormi, maquillage et dans la voiture. La soirée, qui se passe dans une magnifique villa moderne, le maître de maison, un homme grand, fort, cheveux châtains.
Tiens, je le connais.
Parler au maître de maison de son travail. Les plans secrets. On lui demande si c'est volé. Impossible. C'est dans un bon coffre. Mais si l'on vole, que ferait le roi? Il vous tuerait? Sûrement oui. Mais impossible. Dans un bon coffre. Pendant la soirée, on cherche le coffre. Le service de la maison, qui est fait par des escrocs, mais les escrocs sont des compagnons de Jéhu. On trouve le coffre dans une pièce, à l'étage. On a ouvert le coffre avec l'aide d'un ordinateur qui calcule toutes les sortes de codes.
Je suis vraiment désolée. Pardonnez-moi, je suis confuse.
L'ouvre. On prend le plan, on en fait des deux photocopies, puis on remet le coffre en place. on remet le plan en place. L'architecte appelle la soirée dans son bureau, voit des taches de bois, de doigts sur le coffre. Il se dit qu'on l'a ouvert cette nuit. Il ne peut faire quelque chose. Il a peur que si le roi le sait, il le fasse tuer. Les compagnons lisent le plan et voient les passages secrets. Voilà, nous pourrons passer sans que personne ne s'en aperçoive. Le passage pour aller dans le lieu de débauche. Nous pourra même le maintenir prisonnier dans sa corve. Georges demande: et pourquoi pas le tuer pour en être débarrassé? Non, nous ne sommes pas des criminels. Il faut former une cour martiale pour le juger à huis clos. Nous demanderons l'autorisation pour le déclarer coupable et le tuer. Le chef lui dit: nous verrons, mais en attendant, l'autre est pur. Il refusera toute atteinte à la vie de son frère. Alors je lui dis: son frère, il ne l'a jamais connu. C'est son frère de sang. Il est pur. Et les purs sont les plus difficiles à diriger. Et puis le roi décide. Nous sommes à ses ordres. Rien de plus. L'autre aussi. L'autre ne peut être roi. Il est sadique. Immoral. N'a rien d'un roi. On s'est trompé. Mais il a le sang, sang dématuré. Voyez les autres prétendants. Ils ont du sang de navet. Alors en attendant que la cité soit finie, il faut attendre pour agir. Georges lui dit: mais la cité sera bien gardée. Il faudra engager des gens à nous pour le service. Les jours passent. La cité n'est pas prête d'être finie. Gilles et Pierre sont inquiets pour l'avenir de l'association. Gilles dit à Pierre: les SDF sont séduits par l'embauche pour les villes et ils veulent un salaire. Ils ne veulent plus travailler pour rien, comme ils disent. Nous ne pouvons pas les payer, c'est impossible. Pierre lui dit: s'ils ne veulent plus qu'on les aide, eh bien tant pis pour eux. Nous arrêterons l'association. Nous, nous n'avons rien à perdre, mais c'est eux. Tu auras d'autres occupations. J'ai lui dit: oui, comme celle de catéchiser les gens. Plus personne ne va à la messe et même ne croit en Dieu. C'est peut-être Dieu qui veut que je ferme l'association pour que je prenne toute mon énergie pour servir. Servir sa maison. Pierre lui dit: oui, peut-être, et je t'aiderai. Merci. Une petite parenthèse pour dire, c'est que cette histoire est assez compliquée. à décrire. Parce que ces personnages n'ont pas de vie privée. Ce sont que des figures dont l'un représente le mal et l'autre le bien. Ils ne sont qu'un levier qui est rajouté aux catastrophes du monde. Il arrive à un moment où le monde est dans un tel état que rien ne peut changer sa face. L'on pense, l'on aide comme l'on peut, ou l'on veut que les détruire, que la destruction aille plus loin et plus vite. L'on veut toucher les hommes, les prendre à soi. Mais les hommes sont déjà pourris et l'on travaille que sur de la pourriture. Quoi qu'on en fasse, tout va à l'eau, tout va à sa fin. Certains croient en l'avenir et continuent à aimer. Marie-Ozanne, depuis la mort de son père, a senti un grand vide. Elle a besoin d'aimer et d'être aimée. Alors, elle a porté toute son affection sur Gilles. Elle pense que c'est une affection pure, parce qu'il est prêtre, mais elle se trompe. Elle était aveuglée par ses sentiments. Lorsqu'elle est jalouse, elle ne pense pas que c'est de la jalousie. Elle se dit simplement que ce n'est pas juste. Elle n'a pas pensé le mot de ses sentiments. Si on lui disait, elle dirait que non, que c'est faux, qu'elle en aurait honte. Oui. Comment moi puis-je avoir de l'amour pour lui, un prêtre? C'est faux. Ceux qui disent ça voient le mal de partout. Elle n'a jamais connu l'amour et ce qu'elle ressent, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne veut pas le savoir et même ne se pose pas de questions. Cette innocence qu'elle a mise et voulu dans cet amour, innocence, parce qu'elle se joue la comédie, mais malgré elle. La nuit, dans ses rêves, là c'est autre chose. Son esprit n'a plus à se mettre un voile pudique, innocent, mais il se détend. Et fait montrer réellement ce qu'elle ressent. Excite, elle s'excite. En rêve, elle repousse toute contrainte, elle éprouve du plaisir. Lorsqu'elle se réveille, très vite, son inconscient efface ses images et sensations. Son cerveau, son âme sait qu'elle ne pourra pas supporter de se rappeler ces choses qui pour elle sont honteuses et qui pourtant elle n'a pas vraiment à avoir honte puisque ce n'est pas de sa faute. C'est malgré elle qu'elle rêve de ça et qu'elle en éprouve du plaisir. Lorsqu'elle est près de Gilles, elle le dévore des yeux. Mais elle ne supporterait pas qu'il la touche ou qu'elle l'effleure. Elle surtout aurait un réflexe de recul, même de dégoût. Pourtant, elle désire cette rencontre de ces deux corps, mais inconsciemment. Des fois, lorsque Gilles la regarde, lorsqu'elle le regarde d'une drôle de façon, il lui demande ce qu'elle a. Elle lui répond en sortant de ses rêves, « Rien ?» Il lui dit, « Vous rêviez ?»« Non. » Il lui dit, « Alors vous êtes fatiguée ?» Elle lui dit, « Je dois être ça. » Allez. Rentrez chez vous. Elle lui dit effrayée. Non, merci, je vais très bien. Il se dit qu'elle doit être simple d'esprit ou mieux pour regarder les gens comme ça. Vous devriez, si vous achetez des lunettes. Mais j'y vois très bien. L'on croit bien y voir, mais l'on voit mal. Elle lui dit vexée. Mais j'y vois très bien, même mieux que certains. Il se dit. Elle se vexe pour un rien. Déjà à son âge, elle a le caractère d'une vieille fille. Oui, caractère d'une vieille fille. Je dis, c'est parce qu'elle est toujours avec des gens sérieux. Et puis, pas avec des gens de son âge. Elle se tue au travail, pauvre fille. Je ne fais pas attention à elle. Je devrais plus, souvent, la remercier et lui dire de se reposer un peu. Il la voit laver le linge de la maison dans la baignoire. Les machines à laver, il n'y en a plus. Et puis, c'est interdit de faire marcher l'électricité l'après-midi. Il la voit courbée, frottant avec une brosse à chien-dents. Va vers elle et lui dit « C'est pénible de faire ça. Reposez-vous un peu. » Elle le regarde surprise, suant à cause de la chaleur. Elle est en train de laver ses vêtements avec amour. Elle lui dit « Ça va, je vous remercie. J'ai bientôt fini. » Il lui sourit. Elle est émue par ce sourire et qui s'inquiète d'elle. Il lui dit « Il faut pas... Je ne fais pas assez attention à vous. Je vous demande pardon. » Elle est aux anges. Elle lui dit « Ça va, je vous remercie. Vous aussi, vous travaillez beaucoup. » Il lui dit « Moi, ce n'est pas la même chose. C'est normal. Vous, il faut vous asseoir 5 minutes. Il faut prendre un moment de repos. » Elle s'assoit toute heureuse et lui demande « Vous voulez boire quelque chose ?»« Non, merci. » Elle le regarde plein de gratitude et lui dit « Vous allez vous reposer désormais toutes les heures. Avec ce temps, on ne peut pas travailler constamment. Je vais vous prêter un livre. Vous aimez lire ?»« Oui. » »« Je m'en doutais. » Elle se dit avec amour qui pense à moi et voit qui je suis. Elle est toute heureuse. Il va prendre un livre. Tenez, c'est Journal d'un curé de campagne. C'est très beau, mais dur. Elle prend le livre, merci. Elle a l'impression qu'ils sont en communion ensemble. Et ce sera toujours comme ça, oui. Toujours comme ça. Seul. Sans le désir. C'est ce qu'elle désire. Juste ça. La porte s'est ouverte. Il sursaute. C'est Pierre. Elle est furieuse et le déteste. C'est lui qui empêche cette communion. Cette communion qu'elle désirait tant. Pierre dit, j'ai déchargé la camionnette de médicaments. Gilles va à lui. Elle voit qu'il est illuminé. Il le prend à la nuque et dit, c'est bien mon grand. Fatigué? Oui, un peu. Tu veux boire? Oui, un jus d'orange. Il va le chercher. Pierre s'assoit à table. Il l'a servi. Merci. Elle ne compte plus. Il ne la voit plus. Elle a envie, c'est de le battre, ce Pierre. Retourne à sa lessiveuse. Il ne le voit pas. Elle n'existe plus pour lui. Elle frotte son linge comme une démente. Elle se dit qu'elle est pour lui qu'une chose. Et Pierre, Pierre Cesson, c'est quoi Pierre? Elle ne le sait, mais elle sait qu'elle le déteste. Elle ne lui lavera à ce Pierre son linge qu'en dernier, sans changer l'eau. Pierre dit, j'ai faim. J'ai lui dit, c'est normal, j'ai mangé mon grand. Marie, elle sursaute. Il a dit son nom. Il lui dit, nous mangeons bientôt. Il lui dit, j'ai à faire mon linge. Elle se dit, c'est bien fait pour Pierre. Ils attendront. Gilles lui dit, oui, bien sûr. Terminé. Bien fait pour Pierre. Chaque fois qu'elle voit son Pierre, elle ne peut s'empêcher de penser qu'il lui arrive quelque chose, une maladie, un accident, qu'il meurt. Des fois, elle se reprend et se dit que ce n'est pas chrétien de penser comme ça, mais n'y peut rien. Et puis, est-ce chrétien que Pierre accapare tout Gilles? Durant toute la journée, Gilles ne la voit pas. Pourtant, elle fait du bruit en lavant, en préparant le repas, lavant la vaisselle. Non, il est pris par Pierre. Il lui demande ce qu'il fait, où en est ses études. Elle se dit, ses études, tu parles. Il lit de vieux livres scolaires du siècle dernier. Il ne va même pas à l'école, ce feignant. Mais moi, même moi, rien. C'est lui qui a tout. Qui a tout de Gilles. Bien sûr, tout à l'heure, mais c'était une faiblesse, ennui ou honte de la faire travailler comme une esclave dans cette chaleur. Oui, par honte. Alors elle décide, c'est de travailler comme une forcenée pour qu'il ait honte. Il faut qu'il ait honte pour qu'il pense à elle autrement. C'est la seule façon pour qu'il ait une pensée à elle. Elle en rage, veut se tuer au travail et aime cela. Elle tombera malade et là, il aura pitié d'elle et honte de lui. Tiens, si elle mourait comme ça, en faisant sa lessive, bien fait pour lui, elle deviendra le centre de ses pensées et aura du remords. Pierre ne comptera plus pour lui. Mais Marie a beau frotter, elle est tellement forte. Quelle idée d'être si forte. En pensant à tout ça, elle se voit morte, comme ça. Mais tout à coup, elle voit que sa mort le laisserait indifférent, trop occupé à Pierre. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce Pierre? On ne sait pas. Il est venu comme ça, avec sa mère, qui est morte, et voilà. C'est peut-être un voleur. Il a peut-être tué. On ne sait jamais avec les jeunes maintenant. Tout est possible. Voilà, elle a fini sa journée, épuisée, éreintée, pleine de rage et de fureur. Elle quitte sa blouse Je recoiffe. Prend son sac et dit, je m'en vais. J'ai dit, j'enlevais la tête du livre de classe qui lit front contre front avec Pierre. Bien, merci. Elle s'en va, écœurée. Arrivée chez elle, au 49 rue de Vienne, pas d'ascenseur. Elle doit monter les 5 étages à pied. C'est pénible. Elle entre dans son petit 3 pièces. Les volets sont fermés à cause de la chaleur. Vieux meubles de son père, photos de ses parents, coucou, napperon, tout fait vieux et mort. Lorsqu'elle entre chez elle, elle a toujours l'impression qu'elle va retrouver son père. Elle n'est pas chez elle, elle est chez ses parents. Sa chambre est restée la même, chambre de jeune fille, simple. Sur la commode, une statue de la Vierge en plastique blanc et bleu, statue achetée lors d'un voyage à Lourdes. Au-dessus de son lit, un Christ tout simple en bois. Pose son sac sur la commode. Je me souviens du livre. S'assoit sur une chaise et l'ouvre. Elle soupire et se dit que malgré tout, il a pensé à elle. Alors, elle oublie toute sa haine. Sa haine contre Pierre, sa hargne, Élie. L'histoire d'un pauvre petit curé de campagne, tout simple, dans un pays de pluie, de gens ignorants et méchants. Ça la trouble de lire ça. Elle voit Gilles en ce prêtre, se dit qu'il doit être bien malheureux, lui aussi, tout seul. Heureusement qu'il l'a. Le lendemain, lorsqu'elle le revoit, elle lui dit qu'elle a commencé à lire le livre et qu'elle le trouve très émouvant. Il lui dit discrètement, quel livre ? Oui, quel livre ? Elle est triste, lui dit les larmes aux yeux, le curé de campagne. Ah, oui. C'est tout. Elle se dit qu'il lui a prêté le livre comme ça, sans y penser. Elle le déteste. Elle se dit qu'elle ne compte pas pour lui. Elle a la bonne, et c'est tout. Oui, une bonne. Rien de plus. Elle se dit ça, mais si quelqu'un lui disait qu'elle souhaite d'être aimée par Gilles, elle serait surprise, furieuse et honteuse. Elle lui dirait, c'est faux, qu'il ne faut pas dire des choses pareilles, que c'est interdit, que ce n'est pas bien, que Dieu ne voit dans son âme. Comment pouvez-vous croire que je pense à des horreurs pareilles? Moi, une bonne chrétienne qui va à la messe, chaque jour, Dieu sait que lorsqu'elle va à la messe, elle regarde Gilles vers sa messe. Elle n'a plus aucune pensée vis-à-vis de lui, ni colère, ni sentiment. Elle ne voit que le prêtre. Mais dès qu'elle sort de la messe, ses démons reviennent. Elle est prise par les démons en présence de Gilles. Et pourtant, Gilles représente le bien. Elle est prise par le démon, comme si elle était prise près de Jean-François. Ce qui veut dire que le bien peut donner des pensées mal, le bien, le mal. Tout se mêle, tout se mélange. Gilles est pur, il ne voit rien, ne sait rien. Il aurait honte de ce que ressent Marie, mais pas de la colère, de la pitié. Il se demanderait s'il n'est pas responsable de son trouble. Non, son trouble. Sa haine, son amour est à l'intérieur d'elle, d'elle-même. C'est parce qu'elle vit seule et n'a jamais vraiment vécu. N'a pas eu l'expérience de la vie. L'expérience de la vie empêche le mal ou résonne contre le mal. Vivre par ses pensées, cela fait croire à des choses qui ne sont pas. C'est comme disaient les gens dans le temps, ce n'est pas bien de rêver, c'est dangereux de rêver. On est accaparé par ses démons. Et les démons vous font croire à ce qui n'est pas. Pauvre Marie, qui souffre parce qu'elle rêve trop. Si elle avait été entourée de jeunes gens, de jeunes filles de son âge. Mais non, fille unique d'un vieux couple avec des manies repliées sur eux-mêmes. Ils l'ont enfermée dans leur monde et en elle-même. Quel avenir pour elle, vieille fille avant l'âge. Toujours pour aider et servir. Elle aurait pu rendre heureux un homme. Elle va perdre son temps chez le prêtre et l'église. Sa vie sentira la naphtaline et l'encens. Elle va vite, malgré elle, sans les dire, en s'habillant en vieille femme. Robe marine, chaussures plates, chapeau marine, sac à main. Se fera un chignon. Ses cheveux vont blanchir prématurément. Pas de colorant pour les cacher, pas de maquillage. Les visages secs, nerveux. Lèvres pincées, gestes vite, marchant vite. Pourquoi vite? Personne ne l'attend. Peut-être parce qu'elle a peur des gens, qu'elle croit qu'il la dévisage, ou ne voit-elle pas, ou ne veut-elle pas les voir de peur de sourire à un beau visage. Les jours passent. La vie de Marie ne change pas pour elle. Elle travaille beaucoup pour oublier sa colère qu'elle a contre Gilles. Elle ne fait toujours pas attention. Il ne fait toujours pas attention à elle. Ou s'il la voit, c'est par pitié. Elle déteste toujours Pierre. cela crée une bagarre. Donc, ils sont vaincus. La rue est barrée. Ils ne peuvent fuir. Marie, effrayée, réussit à se faufiler et à s'en aller. Pour le moment, ils ne prennent pas les femmes. Ils veulent que les hommes, jeunes, même des adolescents pour travailler dans la nouvelle ville. Travail de chantier, maçonnerie, etc. Elle a réussi à se faufiler. Arrivé chez Gilles, il est absent. Il y a Pierre. Pierre qui lui dit « Bonjour. Lavez la vaisselle, s'il vous plaît. » Elle est vexée, qui lui donne des ordres. Lui va s'allonger sur le lit. Et dit, je vais tout à l'heure aider Gilles. Elle le voit allongé sur son lit. Et elle, elle fait la vaisselle. Elle est furieuse. Gilles entre. Il ne la voit pas. Va à Pierre et demande. Ça va ? Pierre lui dit. Oui. Gilles lui dit. Je vais chercher un couteau. Il y a l'électricité à réparer. Un fil qui s'est cassé. Comme d'habitude, on n'a pas d'outil. Pierre lui dit, à tout de suite. Tu as le temps, le camion de livraison n'est pas encore arrivé. Il est parti sans rien dire à Marie. Marie est furieuse. Elle déteste ce Pierre. Pierre lui dit, j'ai faim, Marie. Elle dit, j'ai pas fini la vaisselle. Pierre se lève, va au buffet, prend un morceau de pain et du fromage et se met à table. Il mange. Elle aussi a la faim. Tout en mangeant, elle lui dit, Gilles et moi avons décidé de prendre un peu de vacances. Nous allons aller en Vendée. Fait plus frais qu'ici. Elle est furieuse de ce qu'il vient de lui dire. Il va partir avec Gilles en vacances? Non alors, c'est elle qui devrait partir avec Gilles. Oui, c'est elle. Et puis, elle va se retrouver seule, ici, à faire le ménage, le linge, la cuisine, faire les lits des autres. Non alors. Les autres, elles s'en moquent. Elle, ce qu'elle veut, c'est servir Gilles et être seule avec lui. Mais il s'en va. Pierre se lève et lui dit, « Bon, je vais rejoindre Gilles à la clinique. Le camion doit être arrivé. » Marie reste sans bouger. Juste au moment où il va s'en aller, elle lui dit, « Attendez. Ce matin, j'ai vu qu'il y avait une émeute et des bagarres. Ne passez pas par la route de Vienne. Prenez la rue du Repos. Merci. » Et il s'en va. Elle dit tout haut, « Tu es folle ? Non, c'est un crime. Il faut lui dire de ne pas passer par là, que tu t'es trompée. » Elle court vers la porte. Mais ne peut pas sortir pour lui crier. Elle est comme paralysée. tourna rond dans la pièce. Prise, en prévenir et laisser faire. Puis, au bout d'un moment, elle se dit que c'est peut-être fini. Il ne risque plus rien. La rafle est finie, oui. Ne te fais pas de soucis, n'y pense plus. Vite, il faut qu'elle fasse quelque chose. Il faut occuper son esprit. Elle décide de laver le sol. Comme une aimante, elle met les chaises sur la table. Là. Prends un seau à terre. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Cimara, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.